Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour écouter ce quatrième épisode du podcast DRH organisé par la NDRH. On est aujourd'hui avec Laurent Chauhin, que je remercie d'avoir accepté notre proposition d'échanger. Aujourd'hui, Laurent, notre toute première séquence, finalement, ça va être très court, tout simplement une présentation. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ton parcours?
Alors, je ne sais pas si on peut faire court là-dessus, mais on peut le faire de plein de manières différentes, et donc de manière courte et de manière différente. On peut dire que je suis quelqu'un qui a, depuis maintenant presque 30 ans, exercé des fonctions de dirigeant ou de cadre d'entreprise, disons, comme salarié, mais en même temps, j'ai toujours eu une vie aussi de prof, une vie de conseil, et plus précisément de coaching de dirigeant, et enfin une vie d'entrepreneur à certains moments de ma vie professionnelle. Donc je suis ce qu'on appelle un slasher, hein, dans la définition moderne du terme. Voilà, ça c'est une façon de voir. Une autre manière de me présenter, c'est de voir mon parcours sous un angle un peu différent, qui est d'avoir toujours choisi de travailler chez des challengers. C'est-à-dire que mes étapes professionnelles sont une structure autour de quatre grandes périodes, finalement. Ça a toujours été de choisir de travailler chez des challengers, parce que quand vous êtes le leader, par définition, ce qui vous caractérise, c'est ce que vous faites. Si aujourd'hui, je vous dis « Mazar fait de l'audit mieux que EY », ce n'est pas crédible. On fait de l'audit aussi bien, j'espère, mais mieux non, ce sont les leaders et ils sont définis par la profession. Par contre, le challenger, s'il essaie juste de copier le leader, c'est stupide, parce que dans ce cas-là, vous vous différenciez pas, et surtout, bah, par la profession, vous êtes un challenger, vous n'êtes pas le leader, vous êtes derrière. Donc, ce qui caractérise un challenger par rapport à un leader, c'est beaucoup moins ce qu'il fait que ce qu'il est. Et dès l'instant où ce qui caractérise une entreprise, c'est ce qu'elle est, alors la fonction RH devient très intéressante, parce que ce qui fait l'identité des entreprises, ce sont les gens qui y travaillent. Et donc, en réalité, j'ai toujours vu la fonction comme étant beaucoup plus stratégique chez des challengers qu'elle ne peut l'être chez des leaders. Enfin, peut-être dernier point, une autre manière de dire les choses. J'ai jamais été viré dans ma vie. Ce qui n'est pas bien pour un DRH. Hein. Quelque part, on devrait aussi être capable de se mettre un peu de l'autre côté de la table. Je n'ai jamais non plus été placé par un chasseur de tête. Ce qui veut dire que j'ai toujours pu choisir les entreprises où je travaillais. Caractéristique, à chaque fois que j'ai démarré dans l'une d'entre elles, j'ai pensé que c'était la dernière de ma vie, tellement je choisissais les gens pour qui j'allais et tellement j'avais cette résonance personnelle avec ces entreprises. Et puis, finalement, j'ai quand même changé 4 fois sérieusement, disons, d'orientation et d'entreprise, et d'ailleurs d'univers professionnel aussi à cette occasion-là. Voilà, 3 manières de présenter un parcours qui, bien sûr, maintenant touche à sa fin dans sa version exécutive, puisque je suis, on va dire, dans mes, allez, au mieux 10 dernières années exécutives dans des fonctions de DRH de grandes entreprises, quelle que soit l'appellation, les formes diverses, les titres, c'est hors taxe. Hein.
Divers et variés. tu le disais, Mazar, c'est un challenger.
Oui.
Comment tu présenterait l'entreprise au-delà de ce terme-là?
J'ai l'habitude de faire court là-dessus, sinon ça embête tout le monde. Donc quand on me pose la question, j'ai coutume de répondre, vous connaissez les Big Four, ben, on n'est pas l'un d'entre eux.
Très court mais efficace, finalement. Ouais.
Efficace, je ne sais pas, mais souvent ça invite après à d'autres questions qui me permettent peut-être de mettre l'accent sur les 2-3 particularités. En tous les cas, si je dois donner une définition de Mazar, c'est d'abord... C'est une entreprise qui opère dans une industrie assez peu glamour, mais avec des gens glamour. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, c'est très RH, finalement. La deuxième des choses, c'est que c'est une entreprise qui est réellement fondée sur les valeurs. Cette entreprise est née de ça. Elle est née du fait qu'un jour, dans les années 80, son fondateur, Robert Mazar, a donné pour rien son entreprise à la petite cinquantaine de personnes qui travaillaient avec lui. Leur a demandé de lui choisir un successeur et à laisser l'entreprise vivre comme ça, avec une seule petite demande, qui était de dire que si lui cédait pour rien l'entreprise qu'il avait créée, eh bien le rôle des générations suivantes serait de la transmettre aux générations qui leur succéderont, mais bien sûr en meilleur état qu'ils ne l'avaient reçu eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc le projet de Mazar, c'est celui-là.
D'accord. Donc la culture, et ça fait partie de ton poste aussi, cette question-là, la culture, j'imagine, et l'histoire aussi de l'entreprise résonne encore aujourd'hui?
Oui. Alors d'ailleurs, dans le monde académique, il y a un auteur qui s'appelle Edgar Schein, et il est connu pour différents concepts qui ont bien marché, les ancrages de carrière, ce genre de choses. Mais surtout, il a fait une différence qui est assez intéressante dans la notion de culture d'entreprise. Il y a des valeurs qu'on affiche et puis il y a les valeurs qu'on épouse. Et puis après, alors les premières, c'est des artefacts, il appelle ça. Hein, donc, des valeurs un peu artificielles, quelque part, qu'on a tous, quelque part. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes d'une boîte à l'autre, hein, d'un site web à l'autre. Ensuite, les valeurs épousées sont les valeurs un peu plus profondes, celles que je viens d'évoquer, qu'on appelle chez nous « stewardship ». C'est-à-dire le fait de passer à la génération suivante en meilleur état, quelque chose qu'on a reçu. Et puis, bien évidemment, après, il y a on va dire le système humain qui est derrière ça, et les valeurs réelles, si on veut dire les choses de cette manière. Et la culture, c'est ça, en fait, en réalité. Hein, c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez quitté la pièce. C'est non pas ce qu'on affiche sur un site web, mais finalement, ce que tout le monde dirait à peu près, même avec des mots différents parfois, mais sur les mêmes choses communes et qu'on partagerait... au sein d'une entreprise sans s'être concerté avant, quoi, finalement.
Toi, ton poste aujourd'hui, donc tu le disais, tu as occupé tout un tas de fonctions dans les RH, le développement humain. Ton poste aujourd'hui, en quoi il consiste et quel est ton périmètre d'action ?
Alors, j'ai cette chance depuis toujours d'avoir pu choisir non seulement les gens avec qui je travaillais, mais quelque part aussi un peu le design de mon job. Pour être honnête, dans le monde des DRH, et bien sûr la NDRH le représente bien, on pourrait faire une typologie rapide de gens qui sont, pour simplifier, très centrés sur les relations sociales, et en France en particulier, beaucoup plus que dans d'autres pays, c'est un déterminant fort de la fonction. D'autres personnes ont plutôt des trajectoires professionnelles liées au développement humain, et à l'intérieur de ça, on est quelques-uns à avoir, mais assez peu finalement, à avoir comme colonne vertébrale de notre profession la gestion des dirigeants et l'éducation, le développement des leaders, pour le dire comme ça. Voilà. Moi, ça, c'est mon métier depuis toujours. C'est ce que je fais. Quand tout à l'heure, j'évoquais ma vie de slasher, si on regarde la connexion entre tous ces métiers, ça a toujours été ça, c'est le développement des leaders. Alors, comme j'approche du moment où j'arrêterai de servir une entreprise pour m'inventer, j'espère au moins peut-être... les cas, je croise les doigts à la vingtaine d'années qui suivront, ce ne sera pas une vie exécutive, mais justement, ce sera une vie au service du développement des leaders à nouveau. Donc, j'ai cette chance d'être dans une entreprise depuis 11 ans aujourd'hui, Mazars. Le temps passe très vite, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'en suis à ma troisième succession, donc j'aide dans les transitions de leadership et de génération de leaders chez Mazars. On en a une importante qui arrive en 2024. J'en avais eu une première pour laquelle j'avais été recruté par le deuxième président de Mazars à l'époque, Patrick de Cambourg, qui était de l'aider à gérer sa succession, ce qu'on avait fait, mais en remplaçant une personne par un groupe de gens, c'est-à-dire que l'idée, c'était pas de remplacer l'homme providentiel par un autre homme ou une femme providentielle, mais par une communauté unie et intelligente de leaders. Donc on a fait ça. Ensuite, il y a eu encore une succession en 2016, et 2018 qui s'est très bien organisé entre Philippe Castagnac et Hervé Elias. Et puis en 2024, on dira entre 2024 et 2026, il faudra mettre en place cette fois-ci encore une nouvelle génération. En gros, la génération de 2012 va céder sa place. Et là, on parle de 50 à 80 personnes qu'il va falloir mettre en poste. Donc voilà. Et j'ai souhaité plutôt pour ma fin de vie exécutive me concentrer beaucoup sur ces questions-là. Et d'ailleurs en permettant aussi que mes équipes évoluent dans ce sens-là. Donc mon centrage aujourd'hui, il est autour de trois choses. Le leadership chez Mazars, mais ce qui inclut chez nous le partnership, c'est-à-dire les 1100 partenaires mondiaux, et c'est-à-dire la direction de l'entreprise et ses propriétaires, puisque les actionnaires, ce sont les partenaires. Deuxièmement, l'éducation, avec un projet assez majeur qui s'appelle la Mazars Global School of Excellence. Et puis enfin, la culture, parce que nous, volens nolens, en fait, nous ne tenons que par ça. C'est-à-dire, nous tenons par à la fois cette histoire de Mazars, ses valeurs, ce qu'on a envie d'en faire après, ces mélanges culturels permanents et progressifs. Donc voilà, c'est ça mes trois missions principales, mes priorités. Bon, par ailleurs, dans toutes les vies de DRH, il y a toujours des choses qu'on ne raconte pas, mais qui ont une importance tacite, mais forte, dans l'homogénéité ou l'osmose d'une entreprise. Et ça fait partie, bien sûr, aussi de mon rôle.
Oui, j'imagine. Tu as cette passion quand même du management et aussi du leadership. comment c'est venu, cette passion-là, dans ta vie professionnelle ou personnelle aussi. À quel moment tu te rends compte que c'est vraiment ces questions qui t'animent ?
Alors ta question est intéressante et elle me met en abîme. En fait, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais si je donne une réponse spontanée, qui mériterait un peu plus de réflexion, mais disons que, bon, d'abord, je suis quelqu'un qui fondamentalement peut être défini soit comme étant multipassionné, soit étant ataraxique, c'est-à-dire ayant une forme d'absence de passion. C'est-à-dire que j'aime bien ne pas voir les choses de manière trop passionnée, mais plutôt en essayant de trouver le point moyen, le démonia, comme disaient les Grecs. En fait, le leadership, pour moi, je l'ai plus découvert dans l'observation de l'action que par les nombreuses théories qui m'ont conduit toutes d'ailleurs à être plutôt dans ce champ académique-là. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie académique d'être sur le sujet du leadership. Mais en fait, en réalité, je suis plutôt un praticien, moi, qu'un théoricien. Je connais les théories, mais j'ai toujours conçu, et d'ailleurs, quand je parle d'éducation, par exemple, pour moi, je pense que le vrai problème qu'on a dans la formation des leaders, mais d'une façon générale, la formation en entreprise, c'est qu'on cherche à faire comprendre aux gens ce qu'ils font. Alors qu'en fait, il faut accentuer la pratique de ce qu'ils comprennent. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, je vois plus le phénomène comme étant un entraînement pratique sur des sujets qu'on a bien sûr réfléchi ensemble, qui sont pas dogmatiques, mais qui consistent à mettre beaucoup en pratique des choses ensemble. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, on a un très grand mouvement culturel chez Mazars autour de ce qu'on appelle le coaching par les pairs, peer coaching, qui est notre marque de fabrique et qu'on est en train vraiment de diffuser dans chaque recoin culturel de Mazars. Et on a commencé, bien sûr, à le faire avec nos seniors partenaires qui ont été des formidables complices dans cette aventure-là. Mais l'idée a toujours été que ce soit toute l'entreprise qui fonctionne comme ça, donc en coaching par les pairs. Et donc, c'est là, une fois de plus, la théorie est très simple. Ce qui est compliqué, c'est toujours la mise en œuvre. Hein. Les Anglais disent « easier said than done », c'est-à-dire on a plus vite fait de le dire que de le faire. En réalité, voilà, c'est ça. Donc, moi, mon métier, c'est l'entraînement des leaders à des pratiques managériales un peu nouvelles, disruptives, différentes, mais sans que ce soit douloureux, que ce devienne des combats ou des choses comme ça. Il faut que tout ça se passe avec du fun, en fait. Il faut que ce soit très, très cool, tout ça.
Vivant aussi.
Bien sûr, et puis intéressant surtout. C'est des choses un peu nouvelles. Mais l'expérience est importante, disons, dans ma manière de voir les choses. Ça doit être mon côté hôtelier qui ressort un peu, mais l'expérience compte plus que la théorie, j'allais dire.
Tu le disais aussi, tu as une vie de slasher bien rempli. Tu partages beaucoup tes connaissances de plein de manières différentes et ton expérience aussi, que ce soit dans des cours, auprès d'étudiants, à l'NDRH, dans le magazine de la NDRH. Pareil, même question, cette volonté de transmettre, est-ce qu'elle arrive à un moment donné dans ta carrière où tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'avoir ce plus aussi d'échange et de connexion avec les étudiants? Est-ce que c'est là dès le départ? Comment ça?
Il y a peut-être un atavisme familial. Je viens d'une famille où il y avait pas mal d'enseignants, mais je ne sais pas si c'est un atavisme ou si, à l'inverse, ça a créé chez moi plutôt une volonté de ne pas faire la même chose ou de faire les choses différemment. Si je suis totalement transparent par rapport à ta question, en fait, je ne sais pas derrière quoi je cours, mais une chose est sûre, si je dois me définir, je suis un étudiant permanent. Alors, le problème dans le monde universitaire, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de diplôme. Quoi. Enfin, on est arrivé au dernier. Donc après, j'ai une autre stratégie qui consiste à déplacer le champ de mes études. Mais disons que le seul moyen que j'ai trouvé, une fois que j'avais franchi toutes les étapes universitaires possibles et imaginables, ça a été de faire deux choses, finalement. Il y a un diplôme, peu importe, qui s'appelle HDR, enfin, c'est Habilitation à diriger des recherches, qui est théoriquement le dernier diplôme possible dans l'université. En fait, moi aujourd'hui, voilà comment je le fais. C'est-à-dire, je dirige des thèses, mais finalement, je suis autant doctorant que mes doctorants. C'est-à-dire que j'essaye d'amener d'abord des gens à le faire, uniquement des gens qui ont une expérience. Hein. Je n'encadre pas de doctorants débutants, je n'encadre que des personnes qui sont des dirigeants d'entreprise. Et on travaille sur leur faire acquérir une thèse et leur faire rédiger une thèse et leur faire faire de la recherche-action, sachant qu'évidemment, dans ce monde des dirigeants, c'est très peu répandu. Hein, pour te donner
C'est
un
ce que
ordre
j'allais te demander.
d'idée, bah non, mais dans le monde du conseil, par exemple, je crois qu'un peu plus de 90% des gens qui exercent ces métiers-là ont au moins un master. Mais par contre, moins de 2% en France ont un doctorat. Donc c'est encore une frontière à conquérir, à la fois pour l'université et pour les entreprises, que d'avoir des dirigeants qui puissent être docteurs, ce qui est plus le cas dans d'autres pays, ce qui va expliquer par exemple que la France puisse avoir parfois des difficultés à glaner des postes très importants, des très hauts niveaux internationaux, parce que ce qui est demandé, c'est un doctorat. Et là, d'un seul coup, Polytechnique, HEC et compagnie, ça ne veut rien dire pour eux. Donc, c'est pour ça que je veux aussi être un prosélyte de ça, j'ai envie d'être le promoteur de ça. Mais ma réponse, et pardon pour la réponse un peu longue à une question courte finalement, c'est que je cherche, en étant prof ou en étant directeur de thèse, en réalité fondamentalement à continuer à apprendre des choses un peu nouvelles, différentes, approfondies. La seule chose, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à apprendre plus vite, par définition. Enfin, il y a un phénomène justement de méta-apprentissage, comme on appelle ça. Mais voilà, c'est ça, la vraie raison, c'est celle-là, c'est que dans ma vie, j'ai envie de rester un étudiant, quoi.
Comment ça nourrit ta pratique RH, ces échanges?
Alors, bon, d'abord, faut pas qu'on se la raconte. Hein. C'est assez marrant parce que quand on est toujours l'intello de quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que c'est assez marrant. C'est souvent un reproche qui est fait au DRH par. Le plus marrant, c'est quand c'est fait par des gens de marketing ou même des comptables, quoi. Qu'est-ce qui est plus théorique, abstrait? C'est facile, une langue étrangère, la comptabilité, quoi, finalement. Alors c'est marrant parce que là, c'est souvent des gens qui vont reprocher au RH d'être dans leurs rêves, pas les pieds sur terre, etc. Alors qu'en fait, on fait probablement le métier qui est le plus ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'au-delà des attentes d'une entreprise, on doit gérer des gens, on doit gérer leurs besoins humains, leur développement, leur estime de soi. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on est dans des métiers qui vous prennent au corps, qui sont très, très consommateurs d'énergie. Et si on prend cette dimension-là, disons, des RH, bien sûr, on est dans un métier intello. Pourquoi? Parce que, pardon de le dire aussi crûment, mais enfin, si on est con, il ne faut pas faire ce métier, quoi. Donc, il faut quand même avoir une forme d'élévation de l'esprit minimale, ou moins cette ambition. Après, on l'a pas, hein, mais c'est pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la nécessité très importante dans ces métiers-là, d'être capable de faire ces allers-retours entre ce que tu appelles la théorie et l'action, mais dans les deux sens. Il y avait d'ailleurs un type qui était important dans le monde des sciences de gestion, qui s'appelle Kurt Lewin, enfin, en l'occurrence en sociologie. Et Kurt Lewin est mort malheureusement en 1947. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour développer ses grandes idées, mais il avait une formule que je trouve très juste qui dit: il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et si on regarde, tout le monde fonctionne comme ça, avec des sortes de convictions un peu typologisées, où finalement on raisonne avec des matrices à quatre boîtes. Et en fait, la théorie, c'est un moyen d'abord d'éviter de passer systématiquement par l'expérience, qui peut être douloureux, long et très con, encore une fois. Mais à l'inverse, c'est aussi un moyen peut-être d'élever la pensée, de la faire progresser vers quelque chose d'autre. Donne-moi trois idées, je t'en ferai cinq. C'est-à-dire que je crois que ça fait partie d'une forme de sorte de créativité opérationnelle. Moi, je ne suis pas très bon ni très fan de la créativité conceptuelle, c'est-à-dire cette sorte d'imagination permanente sans aucune limite, aucune contrainte. Non, mais en fait, je suis très bon quand, si tu me donnes une idée, après, dans la mise en œuvre, quoi, la créativité dans la mise en œuvre. Alors là, ça, c'est mon truc et c'est ce que j'essaye de développer chez les gens autour de moi. Parce que ça marche, tout le monde voit. Une bonne idée simple dont tout le monde perçoit immédiatement, sans qu'on ait besoin de 150 ans pour l'exprimer, la porter, c'est ce qui est le mieux. Donc en fait, la théorie et la pratique, pour moi, en fait, c'est la même chose en réalité. Hein, c'est-à-dire, les Grecs appelaient ça sophon, techné et poiesis. Voilà, c'est les trois dimensions qu'on doit avoir. S'il nous manque un des pieds du trépied, il y a peu de chances qu'on soit vraiment assis, quoi.
Compliqué. En tout cas, chacune nourrit l'autre aussi. Tu parlais au début de ta réponse de l'image que peuvent avoir les RH auprès des autres fonctions. Et je crois que tu es un militant aussi de ça, c'est-à-dire le fait que les RH se réapproprient peut-être une certaine image aussi, prennent la parole. Quelle est ta vision sur ce sujet-là? Tu es quelqu'un aussi qui prend beaucoup la parole sur les réseaux sociaux, par exemple, ou qui peut inciter aussi la fonction RH à le faire. pour incarner vraiment cette fonction. Comment tu... Voilà. Quelle est ta vision du sujet ?
Alors, j'ai une ambiguïté là-dessus, parce que sans doute je l'apprends plus que certains de mes collègues, mais j'ai l'impression que c'est pas que je suis en avance, c'est que là j'ai peut-être des amis qui sont un peu en retard, c'est plutôt ça. Deuxio, j'essaye jamais à tort et à travers, c'est-à-dire que moi je réagis pas sur tous les sujets, j'ai pas des opinions sur tout, j'en sais rien. J'essaye d'être sur des champs qui sont mes champs de pratique en réalité. Par exemple, quand je fais des cours au CIFOP, si je donne cet exemple-là, j'ai coutume d'expliquer aux étudiants que je n'utiliserai aucun cas que je n'ai pas vécu moi. Alors ça peut présenter beaucoup de limites tout ça, c'est pour ça aussi que je limite mon champ d'intervention. Mais je ne veux pas parler de choses que je n'ai pas vécues de l'intérieur. Alors l'intérieur ne veut pas dire que j'étais aux manettes. Je peux l'avoir connu sans avoir été aux manettes, mais pourtant avoir été impliqué. Mais je crois qu'il est important d'être en connexion avec une certaine forme de réalité et de... justement, de prise de distance à cette réalité, d'où la théorie et l'action. Mais c'est important. C'est, moi, la méthode des cas qui consisterait à essayer de prendre dans une bibliothèque de cas un truc dont j'ai aucune idée, me renseigner dessus et en parler comme si j'étais docte sur le sujet, très peu pour moi, jamais, hors de question. Donc, c'est important pour moi. Donc, la notion de prise de parole, parfois, elle peut venir surtout du fait que, je ne sais pas pourquoi, c'est même pas une qualité ou un talent, c'est juste que moi, que je sois en train de parler en public ou à toi en interview ou en tête-à-tête autour d'un café, je suis le même. C'est-à-dire que je vais d'ailleurs souvent avoir un mode d'expression qui est assez constant, hein, quelles que soient les façons de faire. Ce qui fait que là où des gens se surpréparent à leurs interventions sur la forme, moi, je me prépare que sur le fond. C'est-à-dire que j'ai depuis très jeune, 25 ans, c'est la première fois que je me suis retrouvé devant 500 étudiants. C'est-à-dire, 2 ans avant, j'étais l'un d'eux. Et je savais à quel point on foutait le bordel dans un amphi. Et il fallait réussir à capter leur attention. Voilà, bon, bah, à partir de là, après, on peut voyager. Hein, parce que... j'ai pas de problème de prise de parole en public. Par contre, je vais jamais sur des terrains qui sont pas les miens. Quoi. Encore une fois, qui suis-je pour avoir des opinions sur les sujets que je maîtrise pas ? Je préfère vraiment me limiter là-dessus.
Parce que sur le sujet de la communication, on entend aussi parfois... au sein de l'association notamment, que la fonction RH n'est pas toujours la meilleure pour valoriser ce qu'elle fait, même quand elle fait des choses qui sont de très bonne qualité. Quel est ton regard là-dessus ? Est-ce que tu trouves que ça change ? Est-ce qu'il y a des évolutions ?
Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour ça, mais pour une autre raison, c'est que moi-même, je ne suis pas un grand fan de l'auto-valorisation. Je m'expliquais. D'abord, j'ai toujours trouvé beaucoup plus puissant et intéressant de valoriser d'autres personnes ou d'essayer de valoriser des idées ou des porteurs d'idées que d'essayer de justifier son action. Je pense que la fonction RH a tendance à être trop dans l'auto-justification, justement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bon quand on essaie de s'auto-justifier. Le deuxième élément, donc, à chaque fois... Par exemple, récemment, une de mes collègues en pleine promotion d'ailleurs, avec beaucoup de succès auprès de la NDRH, me demandait ce que je pensais d'un post LinkedIn où elle mettait en avant une qui la mettait elle-même en avant. Et je lui dis, tu sais, en fait, il ne faut jamais dire merci, je suis très touché, jamais je pensais qu'un jour j'en serais, etc. Non, commente l'idée plutôt derrière, c'est-à-dire il faut ajouter de la valeur qui ne soit pas tournée sur soi. Moi, je crois que ce qui est très facile, c'est de ne pas être narcissiquement coincé dans un sujet. Et on a tous ça pourtant. À un moment, faut plutôt se tourner vers l'extérieur. La bonne com, c'est de la com qui parle pas de soi, c'est de la com qui parle des autres. Et quand je dis des autres, c'est au sens des idées, des gens, c'est large. Mais il faut être un peu extrogir, je sais pas comment on dit en bon français, mais il faut être tourné vers l'extérieur plutôt que d'être dans cette forme d'auto-justification ou autre. Donc la première des raisons pour lesquelles je comprends mes confrères, c'est que le truc le plus dur, c'est de parler de ses propres réalisations. Quoi. Si les gens ont besoin qu'on en parle et les voient pas d'eux-mêmes, sans doute déjà, c'est qu'on n'est pas bien barré. Donc il y a un premier point. La deuxième chose, c'est que ayant toujours une version, j'appelle ça le marginal séquent, hein, c'est pas de moi le terme, c'est de Crozier et Friedberg, et avec Erhardt, on est en train d'essayer d'écrire un livre là-dessus. L'idée, c'est que si on veut changer les choses dans une entreprise, c'est compliqué quand on est au cœur vraiment du pouvoir institutionnel. C'est-à-dire quand on est vraiment dans le noyau dur d'une direction, et malheureusement ou heureusement, ça toujours été mon cas, il faut se décentrer parce que sinon, vous êtes d'abord porteur de cette légitimité institutionnelle. À l'inverse, de l'extérieur, on ne peut rien changer. Moi, je suis dans les métiers du conseil depuis longtemps. Objectivement, les consultants changent peu de choses. Donc, si on veut changer les choses, il faut être aux frontières de l'Empire, mais dans l'Empire. Et donc, c'est ça, le marginal séquent, c'est quelqu'un qui peut faire communiquer des mondes qui ne parlent pas les mêmes langues, qui sont différents, qui ont d'autres enjeux, mais qui permettent de faire un peu bouger les choses en réalité. Alors, je pense que les RH, nous, on doit avoir ce positionnement-là, plutôt que de chercher à tout prix à être cœur de sujet. Quand on est cœur de sujet, c'est fini, qu'on est pieds et poings liés. On l'est déjà par nature, les représentants d'une forme de légitimité. Si en plus, on surjoue ça, c'est mal barre. Donc, il faut un peu décaler les codes. Il faut être... Ouais, voilà, faut être marginal, mais c'est quand dans le sens, faut quand même croiser les réalités, quoi, sinon ça va pas. Ouais, voilà. Donc la com, bah, elle découle de ça, c'est-à-dire il y a sans doute eu en plus peut-être une pression trop forte du fameux HR business partner de Dave Ulrich. Je ne suis pas un grand fan parce que non pas de l'idée, Dave est un type formidable et un des penseurs les plus influents, mais j'aime pas l'idée de l'asservissement de la fonction à d'autres fonctions, pour le dire comme ça. Et la fonction RH, c'est une fonction de long terme pour moi, c'est pas une fonction de court terme. Le business, c'est une fonction de court terme, très souvent. Donc, c'est bien qu'on se mette bien au service et qu'on aide, mais d'ailleurs pas seulement le business, tout le monde. Par contre, je pense qu'il faut garder une définition propre de la fonction RH, c'est là-dessus qu'il faut communiquer aussi, c'est là-dessus qu'il faut être capable de le faire bien. Mais là, bah, de toute façon... Je les connais autant que moi, il y a des gens formidables. Par ailleurs, dans la fonction, enfin, moi, je prends l'exemple classique que je cite souvent de gens comme Franck Bournoy ou Jean-Claude Legrand. Je paierai ma place pour aller les écouter, hein, honnêtement. Je me fais inviter souvent, mais honnêtement, j'aurais aucune hésitation aujourd'hui à acheter une formation qui serait faite par l'un ou par l'autre, ou par les deux, encore mieux. Et là, je viens de citer deux exemples, je peux en citer tellement d'autres. Tellement d'autres. Donc... Voilà, je pense pas qu'on soit si en retard que ça dans la com.
Il faut garder cette identité, en tout cas, parce que j'entends cette identité, oui. RH, la tête un peu au-dessus de la mêlée, et garder ce long terme.
Oui, et puis il faut avoir une ambition pour ce qu'on fait un peu, c'est-à-dire pour cette fonction, pour toujours regarder en l'air, pas regarder en bas, quoi. C'est ça le truc. Il faut se donner une envie de porter une forme d'ambition dans ce qu'on fait, je pense. Une envie d'aller un petit coup plus loin. Donc, la communication, elle doit être là-dessus.
On va passer à une seconde séquence qui sont plutôt des questions courtes, réponses courtes.
Allez.
Sur des moments de ta vie professionnelle. Ouais. Si je te demande quel est ton meilleur souvenir professionnel.
Avenir. Non, ça, c'est une réponse de com à la con. J'en ai vraiment beaucoup... D'une façon générale, j'éprouve toujours une fierté immense quand des gens qui travaillent avec moi reçoivent les lauriers de leur gloire. Voilà. Donc, des moments comme ça, il y en a plein pour moi. Je vais en choisir un ou deux ou trois, je peux vraiment les lister spontanément. Disons, le point qui est majeur pour moi, ça a été des moments où, non pas un projet aboutissait, par exemple, ça ne me procure rien, je suis déjà dans le suivant. Donc j'arrive pas du tout à célébrer, moi je ne sais pas faire ça. J'ai une incapacité totale à célébrer, que ce soit avec les équipes, moi-même, tout ça. Pour moi, quand on arrive à l'aboutissement de quelque chose, c'est même presque dommage, on a fini, quoi, quelque part. Donc, par contre, quand je vois quelqu'un qui va émerger, va se révéler, c'est l'ARH a un incroyable talent, quoi. C'est-à-dire que là, je suis comme si j'étais dans un public de ce genre d'émission et que j'étais scotché par un truc. Et alors, si en plus je connais les gens et que justement, ça me paraît être le moment magique de leur révélation, alors là, c'est formidable.
T'as un exemple en tête ?
Oui, je peux en citer plusieurs, mais si je... Le dernier en date, je vais prendre plus tôt, hein, comme ça, ça m'évite de multiplier les exemples, mais récemment, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui est extrêmement brillante, qui s'appelle Jennifer. Et Jennifer s'est engagée dans une formation de coaching exécutif, et Et c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure, elle a la gentillesse de m'en parler, moi-même ayant un peu cette expérience et en même temps ces questions autour du coaching. On a beaucoup discuté tout au long de sa formation. Mais c'est marrant, le jour où elle passait ses examens pour son diplôme, c'est comme si je l'ai passé moi, quoi. Alors qu'en fait, je n'étais pas là du tout. J'étais en train de bosser. Ça m'a fait un grand plaisir. Alors, non pas quand elle a eu le diplôme, parce que de toute façon, ça, je savais qu'elle l'avait, mais le moment où, ayant fait ses oraux et ce genre de choses, elle me racontait comment s'était passé l'oral. Là, je voyais qu'elle avait été exceptionnelle, qu'elle avait déchiré. Elle me le racontait en rigolant, en tout ça. Donc, je sentais qu'il y avait une satisfaction personnelle forte. Ça, c'est unique comme sensation que quelqu'un ait pu. Faire quelque chose, non pas parce que je l'ai transmis, parce qu'en l'occurrence, je n'ai rien transmis, mais parce que à un moment, par contre, je l'ai permis. C'est-à-dire, j'ai pu jouer un rôle dans le fait que ça puisse arriver. Mais moi, c'est plus, voilà, ces moments où je donne la possibilité à quelqu'un de faire que le fait qu'on dise bravo, super, on a gagné. Quoi. Ça, voilà. Mais bon, c'est juste pour citer un exemple, j'aurais pu parler de tellement de gens.
T'as d'autres exemples.
Ah oui, complètement.
Ta vie professionnelle. Si tu devais refaire quelque chose de ta vie professionnelle, que ferais-tu ?
Ah, alors je serais géo au Club Med de l'ancien temps, ou chef de village, ça m'aurait été parfait, mais j'ai rencontré Serge Trigano après qu'il ait perdu le Club Med, c'est la définition de la stupidité. Donc j'allais pas au Club Med, je venais pas de ces milieux-là, j'étais pas dans la culture, et pourtant je suis devenu sans doute un exégète du club, mais de l'ancienne époque, hein, le club d'aujourd'hui je le connais pas. Mais voilà, j'aurais volontiers été un chef de village ou un géo à l'époque. Ou sinon, il y a d'autres métiers qui m'auraient plu, je pense, mais voilà, j'aurais sans doute fait ce que feront mes fils, probablement plus que moi, c'est-à-dire choisi une voie, et puis j'aurais essayé de me réaliser dans cette voie-là. Au lieu de quoi, moi je suis mis un peu par défaut dans le monde des RH, dans ce genre de choses.
Et une dernière courte question. Quels sont tes mentors ou les personnes qui t'ont inspiré ?
Alors là, pareil, plein, mais personne en particulier, parce que c'est pas mon mode de raisonnement. Je suis pas dans des formes d'admiration ou d'aller chercher du mentorship. Et à l'inverse, j'ai l'admiration très facile. En fait. Donc je peux, on va se livrer un exercice rigolo. Je vais donner des exemples comme ça au hasard, et puis tu m'arrêtes quand t'en as marre. On parlait de Serge Trigano, tiens, voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intéressé et que j'aime énormément, voilà. Mais Reto Widvert, le patron de Kempinski, et puis une dame formidable qui s'appelle Annick Gehm, qui était la DRH de Continent à l'époque, hein, ça fait très longtemps. Et puis, dans mes équipes aussi, j'ai toujours, et c'est la chance que j'ai, des gens qui m'inspirent beaucoup, Ludivine, que tu connais, et qui, ça fait maintenant 16 ans qu'on travaille ensemble, et ce que j'adore, tiens, voilà, un moment qui m'a toujours fait plaisir, c'est quand les gens préfèrent parler à Ludivine qu'à moi, c'est que, voilà, on a réussi quelque chose, quoi, c'est pas mal. Donc, voilà, j'ai pas de figure, par contre, théorique particulière. Je suis membre de la Drucker Society, et donc j'aime beaucoup Peter Drucker, mais j'aurais pas voulu être Peter Drucker, c'est pas ça, j'aime bien les idées, moi, en fait, j'aime bien... Donc, voilà, je suis pas tellement dans le mentoring, je suis plus dans... Voilà, je suis plus dans le fait qu'à certains moments, j'ai retenu plein de choses de plein de gens. Et...
Nourrissent aussi un moment
oui,
de vie.
Oui, bien sûr. Et chaque jour, hein, j'y pense volontiers.
Et le mot de la fin, quelle est ta vision de l'avenir de la fonction RH ? Tu l'as vu aussi bouger, évoluer.
Oui, alors j'ai coutume de le résumer d'une manière qui est la contraposée du slasher. C'est-à-dire que si des gens deviennent slasher, ben, je pense que certaines personnes de talent auront besoin d'avoir des agents de joueurs. Comme dans le sport, par exemple, ou dans les professions artistiques, donc 10%. Voilà, moi je pense que l'avenir des DRH, c'est 10%.
Parfait, je laisse nos auditeurs et auditrices méditer sur cette idée. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de DRH.